fermé, du coup, le jour de sa sortie, il était terrifié. Au lieu de se réjouir de pouvoir retrouver sa liberté, il va avoir peur parce qu'il ne savait plus comment marcher dans une rue ouverte. Il avait peur de l'espace, il avait peur des gens, il avait peur de l'avenir, puisque quand il sort de prison, du coup, il a 35 ans, et voilà, il lui reste encore du temps à vivre. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être resté assis devant la porte de sa prison pendant des heures, refusant de partir. La porte était ouverte, mais il ne savait pas quoi faire, et son esprit était encore enchaîné. Et c'est exactement le même drame qu'on va lire, la même histoire que nous allons lire ce matin dans l'évangile de Jean, où la pierre du tombeau a été roulée, Jésus est ressuscité, la mort a été vaincue, mais les disciples sont encore enfermés. La porte est verrouillée cette fois-ci, mais de l'intérieur, et aujourd'hui nous allons voir comment Jésus vient ici nous déconfiner, là où nous sommes restés bloqués. C'est bien beau de célébrer la résurrection de Jésus, encore faut-il vivre les conséquences de sa résurrection. Et nous allons voir quelque part que l'être humain que nous sommes n'est pas différent d'il y a 2000 ans, et que ce qu'ont vécu les disciples, il nous arrive aussi de le vivre. Nous pouvons chanter comme ce matin, nous pouvons prier, croire que Jésus est ressuscité, comme cet homme qui était libre, mais qui au fond de lui-même ne l'était pas. C'est mon premier point, le confinement du cœur, sortir de la peur. Et je vous propose de lire du coup les versets 19 à 20. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison, dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Les disciples ici sont verrouillés par la crainte, par la peur. Et la peur ici, mes frères et sœurs, c'est une angoisse, une prison sans barreaux, qui paralyse tout. Elle paralyse notre joie, la mémoire des promesses de Jésus, notre avenir. Et en lisant ce passage, je me suis demandé pourquoi Jésus n'a-t-il pas frappé à la porte. Les disciples sont enfermés à l'intérieur d'une pièce. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. C'est ce que dit le texte, hein, verset 19. Et pourquoi, du coup, Jésus n'a-t-il pas frappé à la porte? Est-ce qu'on ne lui a pas appris la politesse? À votre avis, pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi Jésus apparaît au milieu d'eux? Il aurait pu toquer, leur dire « Je suis là ». Pourquoi, à votre avis? Oui, tout à fait. La raison est très simple. En fait, dans nos peurs, nous n'ouvrons pas à n'importe qui, encore moins à quelqu'un qui est censé être mort. Et même si les disciples, à ce moment-là, ont entendu parler qu'il est ressuscité, ils sont comme cet homme, William Milner. Au fond d'eux-mêmes, c'est impossible. Et du coup, ils restent enfermés. Le texte ici ne dit pas du coup qu'il a frappé, il précise, il se trouvait là au milieu d'eux, malgré les portes fermées. Rien ne peut empêcher quelque part Jésus de rejoindre les siens. Les disciples pensaient que les murs les protégeaient, mais en réalité ces murs les emprisonnaient. Et à traversant quelque part les murs, les parois, Jésus leur dit « Vous croyez que ce verrou vous garde en sécurité, mais moi je vous montre quelque part que la sécurité est en moi. » La peur des disciples, elle est réelle. Hein. Ils ont une crainte déjà parce que leur maître est mort. Eux ne croient pas qu'il est ressuscité. Mais surtout, elle est réelle puisque, en fait, les Romains, il y a la crainte que les Romains et les chefs des Juifs continuent à chercher les disciples de Jésus. D'ailleurs, le texte précise, ils sont dans la peur des chefs des Juifs. Une crainte ici, une peur qui est légitime. Alors, quand on est chrétien et que tout va bien, en général, on dit on n'a pas peur et on y va. Dans les épreuves, c'est plus compliqué. Et nous pouvons avoir de vraies peurs, des peurs qui sont légitimes. Et ici, Jésus, il ne vient pas parler, il se présente au milieu d'eux. Et rien que par cette action, déjà, ça vient quelque part montrer à ses disciples qu'il est là. Pour nous, mes frères et sœurs, quel est notre verrou aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur? Peur du jugement des autres, peur de l'échec, peur de l'avenir, beaucoup de peurs qui peuvent quelque part nous enfermer de l'intérieur, Et où nous pouvons dire, nous pouvons chanter comme ce matin que Jésus est vivant, Jésus libère, et rester enchaînés. Enchaînés à nos peurs, enchaînés quelque part à ce que nous pensons et ce que Jésus, lui, pense différemment. Et cette illustration, c'est dans l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire, où le peuple d'Israël, les Hébreux, vont être devant la mer Rouge. Ils sont sortis de l'esclavage, Moïse va les faire sortir d'Égypte, conduit par Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir dans le désert et l'armée de Pharaon, la plus grande armée de l'époque, va les poursuivre. Ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Ils crient de peur. Tellement ils crient de peur, Moïse aussi a peur pour sa vie. A peur que le peuple le tue. Parce que le peuple commence à lui dire « Tu nous as entraînés dans le désert pour nous faire mourir quelque part. » Et Dieu ne fait pas disparaître l'armée de Pharaon. En tout cas, pas tout de suite. Il ouvre un passage là où il n'y en avait pas. Et c'est ce passage qui devient quelque part cette paix pour le peuple. Quelque part, dans nos situations, la paix de Jésus n'attend pas que nos problèmes soient réglés. Pour arriver, il se tient au milieu de notre cellule, de notre cœur, et il dit comme à ses disciples, que la paix soit avec vous. Deuxième point, c'est le confinement des témoins, sortir vers le monde. C'est le verset 21-22, que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Nous avons tendance, un peu comme ses disciples, à nous entourer des gens qui nous ressemblent, qu'on soit chrétien ou pas, et quelque part à rester dans notre zone de confort. C'est ce que j'appelle ça, moi, le confinement du confort. Quelque part, Jésus vient briser ce cercle pour nous faire avancer en ligne droite et aller vers les autres, ceux qui sont différents. Pour aller quelque part être lumière dans ce monde qui a tant besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait, moi j'en ai jamais fait, mais je vois un peu comment c'est, mais de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, le principe, c'est qu'il y a un plongeur qui a des bouteilles d'oxygène dans son dos, et le but, c'est qu'il a des bouteilles, c'est qu'il doit aller dans l'eau. Pour voir les profondeurs ou découvrir ou explorer. S'il reste sur le bateau avec les bouteilles d'oxygène, il ne va pas mourir. Mais bon, il sera un peu débile. Il ne verra rien des merveilles de l'océan. Et quelquefois, nous, on est un peu comme ça. On fait de la plongée, mais on a nos bouteilles d'oxygène et on reste bien sur le bateau. Parce que c'est confortable, il n'y a pas d'effort à faire. Et on est tout et bien équipé, on sait tout, mais on ne se lance pas dans les eaux. Et là, Jésus, quelque part, au-delà même du fait que les disciples ici sont dans la peur, il reste entre eux. D'ailleurs, cet épisode, quelque part, va continuer, puisque même après que Jésus va leur envoyer l'Esprit Saint, il va y avoir un moyen, quelque part, qui va faire et qui va permettre que l'Évangile se répande, ça va être la persécution. La persécution va permettre aux chrétiens d'être dans la diaspora, de s'éparpiller dans l'Empire romain, et parce qu'ils s'éparpillent, ils vont témoigner de leur foi. Et bien souvent, Dieu nous fait sortir de notre zone de confort parce que nous avons besoin de remplir ce mandat de Jésus, être des témoins. C'est ce que j'appelle le déconfinement spirituel, c'est comprendre que nous sommes envoyés dans notre lieu de travail, nos familles, notre voisinage, qui sont notre terrain de mission. Mes frères et sœurs, nous sommes ici tous des missionnaires. Alors bien sûr, il y a des ministères de mission, qui sont spécifiques, mais tout chrétien, c'est le mandat de tout chrétien, d'être un missionnaire dans son entourage. Alors on peut se dire, oui, mais moi j'ai pas les capacités, j'ai pas les moyens. Il s'agit pas forcément de parler, il s'agit d'être. Et celui qui ici est rempli de l'Esprit de Dieu, puisque c'est ça, recevez l'Esprit Saint, est capable d'être chrétien, d'être fidèle à Jésus pour être un témoin autour de lui. Et frères et sœurs, c'est peut-être ici un des points les plus importants. On pourrait dire dans cette histoire que Jésus vient, les disciples sont désemparés, il leur parlerait de la mission après. Pas du tout. Il leur dit que la paix soit avec vous et il enchaîne tout de suite. Il leur donne l'Esprit Saint quelque part pour qu'ils aillent, qu'ils sortent de leur pièce, qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils ne se retrouvent pas uniquement entre nous. Nous devons nous aussi nous poser la question, de manière personnelle ou en église déjà, mais déjà de manière personnelle. Est-ce que je suis ce témoin ? Ou est-ce que quelque part je subis un peu ma vie et je ne suis pas dans l'intention quelque part d'être ce témoin, d'être ce sel, cette lumière qui éclaire mon entourage ? Si moi je ne suis pas ce témoin, qui leur parlera de Dieu ? À ceux qui m'entourent et qui sont loin ici de ce Dieu qui donne la paix. Le Saint-Esprit ici que Jésus donne n'est pas un cadeau pour notre bien-être personnel, c'est le carburant de notre envoi, qui nous permet d'être forts. On le verra après dans les Actes, où les disciples vont sortir de la chambre, ne vont pas avoir resté dans cette peur, ils vont aller au-delà. Et puis le dernier point, c'est le confinement de l'esprit. Sortir du doute, et vous connaissez sans doute ce passage, c'est la suite, verset 24. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Voilà, il y avait un retardataire qui n'était pas là quand Jésus est apparu. Et du coup, les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas ». 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas donc incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas n'était pas là la première fois. Au début du passage qu'on vient de lire, il n'était pas là, le texte le précise. Et quand les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur », il s'est présenté au milieu d'eux, il n'avait même pas toqué dans notre pièce pour rentrer, il est apparu. Thomas va avoir une réaction quelque part que peut-être on pourrait avoir tous. Hein. « Si je ne vois pas, si je ne mets pas, je ne croirai pas. » Thomas a pu se dire peut-être qu'ils sont devenus fous, la tristesse peut-être, le deuil a emporté sur le raisonnement. Ils ont vu un fantôme, moi j'ai besoin de voir, de toucher même, pour croire. Il ne croit pas ses compagnons, hein, avec qui il a cheminé quand même, pendant 3 ans et demi. Il refuse de croire. Mais le problème de Thomas, c'est pas juste qu'il refuse de croire, il veut croire, mais à ses conditions. Il pose ses conditions, en voulant voir, toucher, vérifier. Et derrière ces conditions, il y a une réalité plus profonde. Il refuse de croire le témoignage qui lui a été donné. Est-ce que nous, mes frères et sœurs, nous ne faisons pas souvent la même chose ? Nous ne sommes pas quelquefois des négociateurs du GIGN avec le Seigneur, où nous posons des conditions et nous disons « Seigneur, si tu réponds à la prière, alors… » Et on mettait ce qu'on veut. « Alors je croirai, alors je servirai plus. Si je ressens quelque chose, alors je saurai que tu es là. » Si tu me donnes une preuve, alors je m'engage. Et quelquefois, c'est que nous faisons un peu comme Thomas. Nous mettons des conditions. Avoir le doute, c'est possible. Mettre des conditions à Dieu, quelque part, c'est ne pas estimer ce Dieu qui est là. Jésus va conclure d'ailleurs. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans cette histoire, ce qui est encourageant, c'est que 8 jours plus tard, Jésus revient. Il revient voir ses disciples, ses amis, et il ne rejette pas Thomas. Il ne lui reproche pas, du coup, de ne pas avoir cru, il ne l'humilie pas, il ne se soumet pas non plus à son incrédulité. Jésus ne veut pas non plus suivre la pensée de Thomas. Il lui dit « Avance ton doigt, regarde mes mains, ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Jésus accepte de se révéler à Thomas, mais il l'appelle clairement à sortir de son incrédulité. Il l'appelle à la foi. Parce que nous nous approchons de Dieu uniquement par la foi. Et Thomas va répondre cette belle phrase, une des plus belles phrases de l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est-à-dire, je me soumets à Jésus comme Seigneur et Dieu. Ce n'est plus moi qui dicte mes conditions, je me soumets à ce qu'il est. C'est l'histoire de Viggo Olsen. Viggo Olsen, c'était un brillant chirurgien américain. C'était un homme de science pur et dur, et il était surtout malheureusement athée. Quelques années plus tard, sa femme va donner sa vie à Dieu, et lui va pas comprendre pourquoi sa femme est tombée si bas. Ça va être ses mots, est tombée si bas. Et il va dire cette phrase, « Moi, je ne crois que ce que je vois, j'ai besoin de preuves. » Et c'est un homme, du coup, qui est formé à analyser, à vérifier, à contrôler. Voilà, il est chirurgien, hein, quand même. Et dans son métier, il ne peut pas se permettre d'improviser. C'est ce qu'il va écrire. Mais un jour, un de ses collègues, chirurgien lui aussi, va lui poser cette question simple, « Dans ta vie, Viggo, est-ce que tu exiges vraiment des preuves absolues pour tout ?» Et il va commencer à réfléchir. Quand tu entres au bloc, est-ce que Viggo, est-ce que tu maîtrises absolument tout ce qui va se passer? Tu sais bien que non. Quand tu fais confiance à ton équipe médicale, est-ce que tu vérifies chaque geste à 100%? Non, si tu le fais, tu verras que ça tournera mal au niveau confiance. Quand tu prescris un traitement, est-ce que tu as une certitude absolue du résultat? Tu connais le traitement, mais tu ne connais pas la personne en face à 100%. Et dans ta vie personnelle, est-ce que tu as attendu d'avoir toutes les garanties avant d'aimer ta femme, avant de fonder une famille, avant d'avancer? Il va conclure du coup avec une phrase d'humour en disant « Est-ce que quand tu vas chez ton boucher, tu lui demandes, Viggo, tout le certificat de suivi de la viande ?» Parce que tu ne sais pas ce que la viande, qu'est-ce qu'on en a fait. Non, tu fais confiance. Et son collègue chirurgien, il va avoir une parole très sage, hein. Je pense inspiré de Dieu, puisque du coup cette parole, elle va travailler dans le cœur de Viggo. Il va se rendre compte quelque part que la foi, il l'a pas en Dieu, mais il a foi en beaucoup de choses qu'il ne voit pas dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de vivre. Il vivait déjà dans la confiance tous les jours, sans tout voir, sans tout contrôler. Et il a compris quelque part que son problème avec Dieu n'était pas un manque de preuves, mais une difficulté à lâcher le contrôle. Alors un jour, il va simplement dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne te connais pas, mais je choisis de te faire confiance. » Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, alors on ne sait pas si c'est ce jour-là exactement, à partir de ce jour-là, en tout cas, Viggo, il va avoir une vie complètement chamboulée, transformée. Dieu va habiter en lui, il va donner sa vie à Dieu, et il va devenir l'un des plus grands médecins missionnaires au Bangladesh. Et Viggo, quelque part, ce qu'il a fait, Dieu ne lui a pas présenté une preuve. Quelque part, Dieu a fendu sa carapace d'incrédulité. La foi, c'est une belle histoire, puisqu'elle nous montre que la foi, nous avons tous foi en quelque chose. Tous les jours, quand nous faisons quelque chose, nous vivons en communauté. En tant qu'être humain, nous avons foi. Je trouve que l'exemple, il est beau. Quand nous faisons nos courses, nous ne demandons pas tout le ticket de suivi des aliments. Et vous avez pu entendre, hein, il n'y a pas très longtemps, bon, moi j'ai suivi ça parce que j'ai un petit, il y a eu sur les laits en poudre voilà, un élément toxique qui a produit la mort de nourrissons en France. Est-ce que c'est la faute des consommateurs qui n'ont pas demandé tout le suivi, analysé? Non, parce que nous faisons confiance. Nous faisons confiance. Et si nous faisons confiance déjà dans beaucoup de choses dans la vie, quelque part ce n'est pas parce que avec Dieu, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu ou que nous avons de preuves, c'est parce que nous n'avons pas ici un cœur humble. Nous ne voulons pas lâcher le contrôle. Il y a une phrase moi que je dis à toutes les personnes qui se posent des questions à Dieu, c'est que Dieu y parle. C'est la promesse de la Bible, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Mais pas à n'importe qui. Dieu ne se révèle pas à celui qui veut démontrer quelque chose. On parle de Dieu quand même, hein. Il n'a rien à prouver à personne. Par contre, celui qui le cherche d'un cœur sincère, celui qui met sa foi en action quelque part, Dieu se révèle. Et ce Dieu-là, on ne s'approche ni par l'intelligence, ni par le raisonnement, mais par la foi. Il faut une part de foi. Qui est ce lâcher prise, croire quelque part à ce qu'on ne voit pas de par nos yeux. Et dire cette phrase comme Viggo, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. » Frères et sœurs, est-ce que Notre foi dépend de ce que nous ressentons uniquement. Est-ce que nous attendons encore une preuve de plus pour obéir? Est-ce que tu veux suivre Jésus ou garder le contrôle? Contrôle de tout, le contrôle de ta vie. Et la foi chrétienne, ce n'est pas je crois quand tout est clair, c'est je me confie en celui qui s'est révélé, même si je ne vois ou je ne comprends pas tout. Ça va ? Pour conclure, pendant la guerre de sécession, donc la guerre aux États-Unis, entre les confédérés et du coup et l'Union, il y a eu un soldat qui va être condamné à mort. Et sa mère, ce qu'elle va faire, qui aime son fils comme toutes les mères, va aller voir le président Abraham Lincoln pour demander la grâce présidentielle. Et Lincoln va signer ce papier. Ce papier précieux, ce document qui va du coup sauver la vie de ce fils, de ce soldat. La mère va retourner du coup à la prison et va montrer le document à son fils, mais le soldat ne va pas bouger. Son fils ne va pas bouger parce qu'il pensait que c'était une blague. Et il croyait pas qu'il était vraiment libre. Et il a fallu que le gardien ouvre la cellule et limite le force à sortir dehors pour qu'il comprenne quelque part que c'était pas une blague qu'on lui faisait. Qu'il était réellement libre. Et comme ce soldat, nous pouvons entendre que Christ a tout accompli et pourtant continuer à vivre enfermé. Les disciples étaient enfermés, Jésus est entré. Et il fait encore la même chose aujourd'hui. Alors laisse-moi te poser une question simple ce matin. Qu'est-ce que tu refuses encore que Jésus touche dans ta vie? Bien souvent, nous avons des domaines où nous enfermons, il y a des pièces où nous ne laissons pas la place à Dieu. Ça peut être une peur ou un domaine où nous voulons garder le contrôle. Un doute auquel on s'accroche. Et quelque part, Jésus nous dit ce matin de ne pas rester enfermé dans nos peurs. Parce que c'est lui qui nous donne sa paix, comme à ses disciples. De ne pas rester enfermé dans notre confort, parce qu'il nous appelle. Il nous envoie dans ce monde. De ne pas rester enfermé dans le doute, puisqu'il se révèle à chacun de nous ce matin. La question n'est donc pas est-ce que la porte est fermée? Mais est-ce que Jésus a vraiment accès à toute ma vie? Et c'est ma prière, en tout cas, mes frères et sœurs, que nous puissions ce matin, au-delà de ce que nous pouvons chanter, prier, dire, après le spectacle de Pâques de la semaine dernière, que ce Christ ressuscité, nous le vivons de manière concrète. Nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu qui est vivant. C'est ce Dieu vivant qui va se révéler à ses disciples, qui va se révéler à Thomas, qui va se révéler à Vigo, qui va agir concrètement dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Voilà, prions ensemble ce matin. Coupons nos têtes et prions. Merci Seigneur encore, mon Dieu, parce que dans nos vies, aucune porte ne peut te retenir. Tu es celui dans les peurs, dans nos portes de la peur, nos portes de doute, nos portes de contrôle, nos portes même des fois de compromis. Tu es celui qui se tient au milieu de nos cœurs, au milieu de nos vies et qui nous appelle à revenir à toi. Seigneur, aide-nous encore, mon Dieu, à ne pas rester incrédule, à ne pas avoir un cœur endurci, à ne pas être des chrétiens qui chantons, qui prions, mais qui ne vivons pas réellement ce que toi tu attends de nous. Que nous ne puissions pas, Seigneur, être Jésus comme ces disciples, ces chrétiens dont tu parles, qui disent Seigneur, Seigneur, et tu diras à la fin que tu ne les reconnaîtras pas. Que nous puissions, mon Dieu, être vrais avec toi. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui vient mettre ta paix, qui vient éclairer nos vies, tous les aspects de nos vies, et qui vient, mon Dieu, mettre ta paix. Si nous puissions encore, mon Dieu, te donner complètement tous ces aspects de nos vies. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, toucher nos cœurs ce matin. Comme tu as su toucher le cœur de ses disciples, toucher le cœur de Thomas, tu as su le reprendre, mon Dieu, avec bienveillance, avec fermeté, mon Dieu, mais viens nous aider encore. Mon Dieu, à ne pas juste proclamer, croire juste que tu es ressuscité, mais que nous puissions le vivre concrètement dans nos vies. Que dans nos épreuves, mon Dieu, nous puissions compter sur toi, avoir foi en toi, ce Dieu qui est capable d'ouvrir la mer en deux, de mettre la paix dans nos situations les plus sombres, et même si nous ne voyons pas forcément quelquefois le bout du chemin, nous savons et nous pouvons compter encore sur toi, Seigneur. Aide-nous, Père, dans ces temps qui sont agités dans ce monde, à ne pas être, mon Dieu, comme ceux de ce monde, qui courent dans tous les sens, angoissés, mon Dieu, par les contextes, mais que nous puissions être ces lumières, ces celles qui sont paix dans nos environnements familiaux, dans nos travails. Et tu es celui qui fait avec nous, malgré nos imperfections, malgré, mon Dieu, nos défauts, tu es celui qui fait avec nous. Amen.